Bonsoir mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième et dernière conférence du cycle politique et religion organisée par le cercle Liberté de conscience et laïcité avec la collaboration de l'Institut national Genevois que je remercie ici. Cette conférence a pour titre « Les intégrismes et fondamentalismes religieux ». Qu'entend-on par intégrisme et fondamentalisme ? Souvent galvaudés, fortement connotés, ces termes vont nous valoir un détour par l'histoire et les cultures qui les ont vus naître. Il paraît difficile, en effet, d'imaginer les relations actuelles entre Dieu et César, entre la religion et le politique, tout en ignorant les dynamiques et tensions internes et externes qui ont nourri les traditions religieuses et leur rapport à la cité. Religion et culture sont étroitement associées. Mais qu'entend-on par culture ? Comment appréhender son rôle et sa fonction face à la religion ? Comment, de son côté, une tradition religieuse, qui par nature dépasse les frontières, va-t-elle affronter la diversité des générations et des territoires et réguler la transmission de sa pensée ? Plus généralement, dans un environnement sécularisé et globalisé, quel type de mécanisme la société, j'entends par là, l'État, la société civile, mais aussi les communautés religieuses, peut-elle proposer pour prévenir intégrisme et fondamentalisme et fédérer les différentes sensibilités autour de la recherche d'un bien commun ? Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées ce soir. Après avoir repensé le couple César-Dieu, R-E-P-E-N ou P-A-N, à loisir, et débusqué le sacré camouflé, nous allons ce soir poursuivre notre cheminement, à la fois critique et exigeant, vers une meilleure compréhension des relations entre politique et religion. Face au fondamentalisme de tout poil, quelle meilleure réponse en effet que le débat ? Pour introduire ce débat, nous avons fait appel à M. Philippe González. Permettez-moi de vous le présenter en quelques mots, une véritable gageure si l'on considère son impressionnant parcours. M. Philippe González a été nommé en 2015 maître d'enseignement et de recherche en sociologie de la communication et de la culture à l'Université de Lausanne, où il est engagé depuis 2009. Je relèverai ici que sa thèse de doctorat, Voix des textes VOIX, des textes, voix VOIES des corps, une sociologie du protestantisme évangélique, effectuée en co-tutelle avec l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, lui a valu le prix Jean Vigenet de la meilleure thèse en sciences sociales et économiques, soutenue en 2009 à l'Université de Fribourg. M. González a été chercheur invité à la New School for Social Science à New York, ainsi que professeur invité à l'Université de Sherbrooke, Montréal, et à l'Institut français de presse, Paris 2. Il est chercheur associé du Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Les travaux de M. González portent sur les controverses au sein de l'espace public, et notamment sur les enjeux relatifs à la présence publique des religions. Il est l'un des spécialistes francophones du protestantisme évangélique. Depuis 2009, il a mené plusieurs projets de recherche financés par le Fonds national de la recherche suisse, notamment sur les transformations contemporaines du religieux dans l'espace public. Philippe González est aussi l'auteur, en tout cas d'une cinquantaine d'articles scientifiques ou de chapitres issus de colloques académiques. En 2014, il a publié « Que ton règne vienne des évangéliques tentés par le pouvoir absolu », publié chez Labor et Fides, et dont vous verrez le livre et que vous pouvez acheter en fin de conférence. Il a notamment dirigé « Le religieux entre science et cité » avec Christophe Monod, Genève, Labor et Fides également, 2012, et « Quel âge post-séculier, religion, démocratie, science » avec Stavo de Bauge et Fréga à Paris, édition délai HESS en 2015. Sans plus attendre, je demanderai à Philippe de bien vouloir prendre la parole pour sa conférence. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est un honneur d'être là. Je remercie le CLCL ainsi que l'Institut National Jeune Voix pour cette invitation. En prélude à mon intervention, j'aimerais dire trois choses. La première, c'est que, outre le fait que je suis un sociologue, je suis également un chrétien engagé, je suis protestant, plus précisément ménonite. Mais c'est en qualité de sociologue que je vais parler, c'est la deuxième chose que je dirais, c'est-à-dire que j'aurai recours à la raison commune. Il n'y aura pas besoin de croire une révélation quelconque pour suivre mes arguments. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que j'ai conscience de parler dans le contexte du débat sur la laïcité. Et je pense que c'est le rôle citoyen des chercheurs que de s'exposer à une prise de parole publique qui doit être soumise à la critique des citoyens sur des enjeux sur lesquels ils tentent de travailler. Donc j'ai conscience que le débat est difficile, un peu piégé. Je m'expose et j'attends de votre part à la fois du respect mais aussi une critique féroce lorsqu'il y aura lieu. Voilà, je vous remercie. Dans les années 60, les sociologues prédisaient le déclin des religions. Les religions, disaient-ils, étaient condamnées à disparaître à mesure que les continents de la planète seraient gagnés par la modernisation économique et l'urbanisation. Alors il y a bien des phénomènes de sécularisation et ils comprennent différentes facettes, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Il y a d'autre part des théories de la sécularisation qui, depuis les années 60, ont été battues en brèche. Ces théories se prétendaient prédictives, elles étaient marquées par une vision linéaire de l'histoire qui prenait l'Occident comme modèle, et en particulier l'Europe. Or, des phénomènes importants survenus dans la seconde moitié du XXe siècle ont contredit cette thèse. Ces phénomènes ont montré combien la religion demeure présente, y compris sur le plan politique. Je vais en citer quelques-uns. La révolution iranienne, le regain de religiosité dans les pays de l'Est après l'effondrement du bloc communiste, la croissance des évangéliques dans des pays où ils ne jouissaient pas d'une implantation historique, je pense notamment au continent africain, à l'Amérique latine, à l'Asie, l'avènement de la droite dite chrétienne sur la scène politique américaine, ou encore les événements du 11 septembre. Loin d'être la norme, l'Europe s'apparente plutôt à une exception. Il faut donc penser non pas une, mais plusieurs formes de modernité, et j'aimerais ici suivre les réflexions de l'islamologue Abdelwahab Bedeb, qui distingue deux modèles de modernité. Le premier modèle est associé à l'Europe et au colonialisme. Avec l'avancée du marché, il y a aussi une prétention à amener une pensée critique et universaliste qui s'inspire de l'idéal des Lumières. Les sociétés touchées par cette modernisation à l'européenne sont incitées à penser de façon critique leur héritage culturel. Medeb décrit un second type de modernité qu'il appelle l'américanisation du monde. Ici, la globalisation des échanges économiques débouche sur une société de consommation qui renonce à faire une critique exigeante de sa culture. Cette culture laisse intactes les traditions les plus rétrogrades et fait le lit des fondamentalismes et des intégrismes. On voisine alors avec la sainte ignorance globalisée que dénonce un autre islamologue, Olivier Roy. Cette ignorance se traduit en une intransigeance qui refuse toute critique de la religion. Cette ignorance répugne même à considérer que la religion serait une culture marquée par une histoire plurielle. Ainsi, marché et religion ne sont pas forcément antagonistes. Dans leur variante ultra-libérale et fondamentaliste, ils constituent même les deux faces d'une même pièce. Tout comme on a pu constater que pour la Chine, l'adoption d'une économie capitaliste n'allait pas de pair avec l'adoption de la démocratie. Ces différents modèles de modernité posent la question de l'articulation entre culture, religion et critique. Cette question ne reste pas confinée à l'intérieur de la communauté religieuse. Sitôt qu'on pense la régulation externe du religieux, on voit poindre la question du politique. Il faut alors penser le rapport entre une communauté donnée, ou des communautés, et une société. Mais il convient aussi de réfléchir au rapport entre ce qui est local et ce qui est global, car la religion, comme l'économie d'ailleurs, relève aussi de dynamiques transnationales. Une régulation juste et efficace du religieux, soucieuse d'un vivre ensemble pluraliste, doit prendre en compte ces différentes dimensions. Et c'est dans ce cadre que je vais m'efforcer de penser la thématique qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui, c'est-à-dire les intégrismes et les fondamentalismes religieux. Le fondamentalisme, une forme du religieux. Si vous me le permettez, je partirai d'une anecdote qui me paraît significative à bien des égards. Voilà quelques années, je me rends au Salon du Livre de Genève. Et on trouve habituellement dans ce salon, au fond de la salle de la halle de Palexpo, des stands tenus par des groupes plutôt prosélytes. Je passe près d'un stand d'évangéliques conservateurs, que je connais bien. Aux côtés de la Bible, ces évangéliques offrent des traités d'évangélisation. Cette offre est présente depuis des années. Je crois que j'étais présent au premier Salon du Livre. Je n'étais pas très haut. Je crois qu'il y avait déjà un stand de ce type-là. Je remarque un autre stand, quelques mètres plus loin, que je ne pense pas avoir vu auparavant. Il s'agit de jeunes musulmans qui arborent une longue barbe et qui sont vêtus de djellaba. Ils proposent un stand fort similaire à celui des évangéliques. Je m'arrête, j'entame la conversation pour demander à quelle école d'interprétation ils appartiennent, et la réponse est immédiate. Arborant un large sourire, un jeune homme me dit à peu près en ces mots « Nous, on lit le Coran et les paroles du prophète directement comme ils sont. » Je me fais alors cette réflexion. Si l'on changeait quelques termes en substituant la Bible au Coran, cette même réponse pourrait être proférée par un évangélique du stand d'à côté. Dans les deux cas, il s'agit d'une forme de fondamentalisme. Cette anecdote met en lumière certains éléments de la problématique qui nous occupe. Il serait faux de penser que le fondamentalisme ou l'intégrisme ne touche que l'évangélisme ou l'islam. Cette possibilité malheureuse peut affecter n'importe quelle communauté religieuse. Car le fondamentalisme ou l'intégrisme constitue une façon délétère, à mon sens, d'articuler culture et religion. Mais avant de définir ces termes, je dirai quelques mots sur la culture. Qu'est-ce qu'une culture ? La culture consiste en la façon dont un groupe humain se donne des codes, des traits, des habitudes pour se reconnaître et pour organiser la vie en commun. La façon dont un groupe humain se donne des codes, des traits, des habitudes pour se reconnaître et organiser la vie en commun. Ces éléments vont régler habituellement le fonctionnement du groupe. Les traits qui caractérisent une culture sont souvent contingents. Ils ne sont pas nécessaires. Ils sont liés à l'histoire et à un contexte. Le groupe humain a pris l'habitude de procéder d'une certaine manière, mais il aurait pu en être autrement. Demandez-vous pourquoi vous servez un plat salé au début du repas et un plat sucré à la fin. Pourquoi pas l'inverse ? Contingent, n'est-ce pas ? Ces traits culturels peuvent cependant posséder une dimension plus universelle. Ils se rapportent alors à des normes qui dépassent, qui transcendent un groupe particulier et qui sont susceptibles de s'appliquer au reste du genre humain. Ainsi, l'impératif de l'hospitalité, l'accueil de l'étranger, c'est une donnée universelle. Même s'il se décline différemment suivant les cultures, et même s'il peut être mis à mal par des comportements xénophobes. La culture se situe donc entre deux pôles, celui des mœurs, qui renvoie aux coutumes d'un groupe, des coutumes contingentes, et celui de la morale, qui renvoie à un universel. La culture règle différents niveaux de pratique, du plus trivial au plus important. Cela signifie que dans une culture donnée, toutes les pratiques ne possèdent pas le même degré d'exigence morale. Cette différence est vraie à l'intérieur du groupe. Être impoli, ce n'est pas forcément un crime. Mais cette différence est aussi vraie à l'extérieur du groupe. Certaines valeurs sont vues comme spécifiques à un groupe, alors que d'autres sont tenues pour partager par d'autres groupes, voire par l'humanité dans son ensemble. J'apprenais récemment que dans certaines cultures, couper du pain avec un couteau, c'est un tabou en fait, c'est une transgression. Le pain se rompt avec les mains parce qu'il apporte la vie. Je pense qu'on devrait peut-être intégrer cette donne-là dans notre culture. Cette distinction entre mœurs et morale, on appelle d'ailleurs une autre. Le droit, même s'il s'inspire des mœurs et de la morale, ne se confond pas avec celle-ci. Certaines conduites perçues comme immorales ne sont pas forcément criminalisées. Mon frère est banquier, je sais de quoi je parle. Il n'est pas facile de définir ce qu'est une culture. L'exercice se révèle encore plus difficile avec une religion. Qu'est-ce qu'une religion ? Alors je sais que le projet de loi s'est un peu cassé les dents là-dessus. Je vais tenter ma définition, mais je ne prétends pas réussir. Parce qu'une définition de la religion doit être assez large pour inclure des conceptions diverses, fort diverses. Notamment, ne pas se centrer sur une définition théiste de la religion. Et c'est difficile pour des Occidentaux parce que nous avons été marqués par le monothéisme. La religion pourrait ainsi être conçue comme une tradition. Je vais déjà définir ce qu'est une tradition avant de venir à une religion. Une tradition, c'est un ensemble de pratiques, de rites, de mythes, de textes, de savoirs qui sont transmis dans le temps et l'espace. Un ensemble de pratiques, de rites, de mythes, de textes, de savoirs qui sont transmis dans le temps et l'espace. À présent, une religion serait, à mon sens, une tradition qui tente de penser le sens ultime de l'existence individuelle et collective. Une tradition qui tente de penser le sens ultime de l'existence individuelle et collective. Une tradition religieuse peut constituer le fondement d'une culture. Ces idées sur le sens ultime de l'existence peuvent fournir une légitimité transcendante à une culture, à la façon dont elle organise l'ordre social, dont elle distingue entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste, entre les relations licites et illicites. Une tradition religieuse est donc un outil extrêmement puissant pour définir l'identité d'un groupe et légitimer son organisation politique. Toutefois, dès lors qu'on parle de tradition, surgissent aussitôt des interrogations relatives à l'histoire et au groupe. Car il y a un paradoxe dans cette tradition qui prétend viser l'universel, alors qu'elle vise cet universel toujours inscrite dans l'histoire, c'est-à-dire dans une dimension contingente. Par ailleurs, cette visée de l'universel se déroule toujours dans un contexte socioculturel donné. Elle est spécifique à un certain groupe et non à l'ensemble de l'humanité. D'autre part, en lien avec l'enjeu que constitue la pérennité du groupe, la tradition doit affronter la question délicate de sa transmission. Il s'agit de savoir qui peut transmettre cette tradition. Que faut-il transmettre dans cette tradition? À qui le transmettre? Et comment? Toutes les religions affrontent la question de la transmission. Car le groupe doit penser, même s'il lui arrive d'oublier, comment surmonter la barrière entre les générations Et on peut parler ici d'une barrière verticale, une transmission à l'intérieur du groupe. Mais il y a une autre barrière, ce sont les frontières horizontales, c'est-à-dire comment se diffuser aux autres parties de la société. Et on pourrait parler ici non pas d'une transmission aux générations, mais d'un élan missionnaire. Toutes les religions ne sont pas missionnaires, mais les principales l'ont été ou le sont aujourd'hui. Et surtout, le groupe doit s'assurer que les bons enseignements théoriques ou pratiques sont correctement transmis. Ce qui implique, pour toute tradition, une forme de régulation. On va régler comment s'opère cette transmission. Pour s'assurer de ce travail de transmission, mais aussi que les fidèles vivent ou pensent de façon conforme à la tradition, trois formes de régulation sont possibles. Cette régulation peut être commune au groupe, elle peut être déléguée à des spécialistes, ou elle peut être finalement individuelle. Ces trois formes peuvent coexister d'ailleurs, ce qui implique des tensions. Je vais revenir sur ces trois formes de régulation. La première repose sur le sens commun du groupe. Il faut imaginer ici un groupe suffisamment petit dans lequel chacun a voix au chapitre. Dans le protestantisme, je prendrai un exemple intéressant, ce sont ce qu'on appelle les Quakers. Alors, vous n'avez pas beaucoup entendu parler des Quakers, je le doute. Les Quakers, c'est un mouvement qui naît au XVIIe siècle en Angleterre, et ce sont des gens qui favorisent une expérience mystique qu'ils vont célébrer généralement par des cultes silencieux. Vous vous asseyez pendant une heure et dans le silence, en communauté, et vous vous mettez à l'écoute de Dieu. Or, pour les Quakers, la transmission se fait de façon égalitaire. C'est un groupe extrêmement démocratique. On partage son expérience en égaux et on ne partage pas de façon hiérarchique. Il n'y a pas de clergé chez les Quakers. Il y a tout au plus un responsable qui gère l'administration, mais surtout pas l'expérience religieuse. Donc pas de maître spirituel chez les Quakers. La seconde régulation délègue à des spécialistes le soin de décider de ce qu'est une bonne transmission. Ces spécialistes sont des experts en matière de doctrine, ou de rite, ou encore de pratique. Cette régulation peut donner lieu à une dérive bien connue, le cléricalisme. Dans cette situation, le clergé s'attribue le pouvoir et empêche parfois les membres du groupe de s'exprimer sur leur propre expérience spirituelle. On peut penser évidemment au christianisme, l'anticléricalisme a visé les curés et les pasteurs, mais il n'y a pas que dans le christianisme que nous avons des traditions avec des maîtres spirituels ou des experts. Pensez au bouddhisme. C'est l'un des paradoxes de l'engouement actuel pour la méditation de pleine conscience, c'est qu'on sort en fait un dispositif de méditation qui a été mis au point dans un cadre de transmission extrêmement rigoureux. Et on en fait un produit quasiment de développement personnel. Mais la dérive inverse est possible. Populiste. Lorsque la base refuse l'avis des spécialistes. C'est toute la tension entre une expérience commune, ou même individuelle, propre aux membres du groupe, et le savoir spécialisé que possède une petite frange d'individus au sein de ce collectif. Un exemple classique de cette tension tient aux injonctions morales que peut énoncer un clergé sur la façon dont les membres du groupe devraient vivre leur sexualité. En Occident, une certaine église, je ne vais pas dire laquelle, a des injonctions assez marquées en matière de contraception. Et on peut dire que la grande majorité des fidèles n'en a cure. Ils ne voient pas en quoi le clergé devrait se mêler de chambre à coucher. Ce qui n'empêche pas ses fidèles de communier régulièrement, rassurez-vous. Le troisième type de régulation constitue, en réalité, une forme de dérégulation des deux précédents. Il s'agit du choix individuel. Évidemment, à l'intérieur de tout groupe humain, aussi autoritaire soit-il, Il est toujours possible d'opérer des choix. Cependant, lorsque ce choix s'oppose au sens commun du groupe ou à l'avis du clergé, il tend à s'affranchir d'une régulation collective explicite. Cette dérégulation des appuis collectifs de la religion traduit la situation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui en Europe. La sécularisation va favoriser, en gros, cette régulation qui est celle du choix individuel. Cette situation donne lieu à de nombreuses conversions. Le choix de l'individu constitue quasiment un impératif en termes d'appartenance religieuse. On entend d'ailleurs des parents qui disent « On ne va pas envoyer nos enfants au catéchisme, on leur laisse le choix. » Quant à savoir si c'est un choix réel, c'est une autre question. Mais on voit bien que l'important de la régulation est une régulation individuelle et ce n'est plus une transmission ni communautaire, ni régulée par des théologiens ou des spécialistes. Mais le cas de figure de la conversion n'est pas sans ambivalence. Le choix individuel peut être émancipateur car il se libère du poids, parfois excessif, du groupe. Cependant, l'absence de régulation collective affranchit l'individu d'avoir à rendre des comptes sur ses convictions et ses actes religieux. Donc ce qui saute, dans une certaine mesure, c'est une responsabilité à l'égard de la communauté, de mes choix individus, de mes choix religieux. Cette absence de régulation collective se retrouve dans du religieux généralement bénin, que nous avons pris l'habitude d'appeler de la spiritualité. Mais l'absence de régulation est aussi présente dans des phénomènes plus inquiétants, comme ce que nous appelons la radicalisation. Dans ce dernier cas, on assiste en réalité à un double mouvement. La dérégulation collective au niveau local est remplacée en réalité par une régulation collective invisible, délocalisée. En d'autres termes, la mosquée ou la chapelle du quartier n'ont plus en fait leur mot à dire pour le croyant qui va trouver ses ressources religieuses sur Internet. Et vous savez, pour qu'elles circulent, elles doivent s'affranchir un maximum de la culture locale et donc elles doivent se radicaliser. C'est la surenchère. À nouveau, ce phénomène n'est pas propre à une religion comme l'islam. Il affecte toute religion dont des contenus circulent de façon globalisée, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre sur les évangéliques. On comprend dès lors l'enjeu que constituent les canaux médiatiques qui s'affranchissent de régulations locales qui émanent d'une communauté ou des spécialistes locaux que l'on peut interpeller sur leurs responsabilités. J'ai défini tout à l'heure la culture comme la façon par laquelle un groupe humain se donne des codes, des traits, des habitudes pour se reconnaître et organiser la vie en commun. J'aimerais pointer une première opération critique que peut exercer la culture à l'égard de la religion. Cette opération, c'est que la culture est capable d'empêcher la religion de se penser comme du pur religieux. Du pur religieux. Et à quoi ressemblerait ce pur religieux ? C'est le fantasme que le religieux ne serait pas atteint par l'histoire, qu'il se situerait en dehors de l'histoire. Or, l'histoire nous oblige à l'humilité. Parce qu'elle oblige à reconnaître une chose extrêmement simple, mais dérangeante. Dérangeante en particulier pour tout dogmatisme ou toute idéologie. Ça ne concerne pas seulement les religions, mais aussi les États. Et ce constat simple et dérangeant, le voici. Nous n'avons pas toujours fait ainsi. Nous n'avons pas toujours fait ainsi. L'histoire introduit donc une variation dans les usages ou les croyances. Je pense que si je rencontrais un chrétien du Moyen-Âge, on aurait assez peu de choses à se dire. Dès lors, un groupe qui se revendique d'un discours, d'une pratique ou d'une révélation à prétention universelle doit faire face à cette première ressource de critique interne. Le rappel de l'histoire peut obliger ce groupe à admettre que nous n'avons pas toujours fait ainsi, que ce que nous érigeons aujourd'hui comme l'universel, en réalité, est contingent. À l'inverse, la tradition, je parlais de l'histoire, maintenant je vais parler de la tradition, la tradition a plutôt tendance à affirmer « nous avons toujours fait ainsi ». Surgit alors une nouvelle tension dans l'articulation entre histoire et tradition. Car la tradition essaye de discerner ce qui est important dans l'histoire du groupe et dans son expérience présente. Cette tension entre histoire et tradition suscite la réflexion, on va le dire dans les meilleurs cas, devrait susciter la réflexion, la critique et même le conflit. Ça arrive toujours. Cependant, la tension peut être une source de créativité, parce qu'elle pose que les options du groupe ne sont pas évidentes, qu'elles n'en vont pas de soi, comme si toutes avaient été données à l'avance dans un passé mythique. Et on commence à présent à approcher du fondamentalisme. Parce que ce qui caractérise le fondamentalisme, c'est son refus de l'histoire. Il refuse de concéder que nous n'avons pas toujours fait ainsi. Il refuse d'être responsable du fait que nous n'avons pas toujours fait ainsi. Il assimile ces variations dans l'histoire à des corruptions. Ce fondamentalisme fantasme une fusion avec le moment originel qui a donné naissance à la religion. Par ailleurs, en recherchant un pur religieux, ce fondamentalisme considère comme sacré la forme culturelle qu'il a adoptée sur le moment, et surtout, il essaye de la soustraire à la critique. C'est ça, soustraire à la critique une forme qui est contingente, sous prétexte qu'elle aurait été donnée par Dieu, ou par une transcendance. Donc le fondamentalisme, et on comprend qu'il fonctionne de façon binaire, récuse qu'il puisse exister une tension entre histoire et tradition. Ou plutôt, le fondamentalisme récuse que cette tension entre histoire et tradition doive être travaillée et qu'elle puisse être féconde. Parce que, en court-circuitant l'histoire, ce que cherche à faire le fondamentalisme, c'est à produire un sentiment d'immédiateté, de présence directe de la transcendance, de Dieu, sans détour, sans médiation. Dans cette conception, le texte sacré, le rite, la juste pratique auraient le pouvoir de plonger le fidèle dans un face-à-face immédiat avec Dieu. Pas besoin des autres. Pas besoin des autres, c'est généralement mauvais signe. Alors, le problème ne réside pas dans l'immédiateté. Le problème n'est pas là, en fait. Le problème tient au fait que cette immédiateté n'est jamais reconnectée avec des médiations collectives qui réinstallent les tensions entre l'expérience vécue par le fidèle, l'histoire et la tradition du groupe, ou, soyons plus exigeants, le dialogue avec la société. Il n'y a pas de tension. Il y a juste une volonté transcendante, divine, un programme d'action, et il faut foncer tout droit. Or, tout système religieux doit articuler la question de l'immédiateté de l'expérience, l'expérience religieuse, avec des médiations collectives. À l'inverse, le fondamentalisme prétend faire sauter ces médiations en proposant un accès immédiat à la transcendance. Par ailleurs, on va fêter l'année prochaine les 500 ans de la Réforme, donc je fais attention à ce que je raconte. Le retour aux sources est un geste fondamental de la critique dans une tradition religieuse. Parce que Luther prétend revenir aux sources, il va produire une critique assez puissante de l'institution catholique. Mais pour fonctionner sur un mode qui soit constructif, cette critique ne doit pas considérer l'histoire exclusivement comme le lieu de la perversion. Le retour aux sources doit assumer la responsabilité d'une interprétation contemporaine. Et cette interprétation, c'est ça qui est important, et c'est à ça que vous reconnaissez un fondamentaliste ou pas. Le fondamentaliste, c'est celui qui vous dit « Mais moi, je lis la Bible comme Jésus. » Qui n'a jamais lu la Bible qu'on a entre les mains, c'est évident. Pourquoi ? Parce que l'interprétation doit faire une différence. Une différence par rapport aux commencements qui ont été ceux de la religion et dans laquelle se reconnaît le groupe. Une différence. Précisément, la religion, en tant qu'elle est une tradition critique, doit tenir compte du fait qu'elle ne lit pas les textes, qu'elle ne pratique pas le rite de la même façon qu'au commencement. Et que ce sera toujours comme ça. Alors le fondamentalisme, et ça c'est la notice historique, ça renvoie à un courant dans l'histoire du protestantisme qui est à la fin du 19e, 20e siècle, début du 20e siècle, en particulier aux États-Unis, a tenté de s'opposer à la modernité. Et ce courant s'appelait lui-même fondamentalisme, donc ce n'était pas une étiquette péjorative, c'était un label d'un groupe qui s'est mobilisé, un protestantisme conservateur, qui luttait contre la critique des sciences appliquées à la religion, et en particulier à la Bible. Ce mouvement s'est crispé sur les doctrines et a refusé que la Bible soit soumise à l'interprétation critique des sciences sociales et historiques. Et ça, c'est très important. Le fondamentalisme ou l'intégrisme ont toujours à voir avec un refus de la critique. Aujourd'hui, bien évidemment, le fondamentalisme désigne tout extrémisme religieux. Mais si l'on voulait être précis, il faudrait dire que le fondamentalisme est une lecture particulière des textes sacrés qui fait sauter les interprétations qui se sont sédimentées au cours de l'histoire. Ces interprétations dans l'histoire ont pu varier, elles ont donné une portée différente au texte au fil des siècles. Et ce que nous dit le fondamentalisme, c'est qu'en gros, réinterpréter les textes, c'est une perversion. Il faut les prendre dans leur sens premier. Alors, Yann Hassman, qui est un spécialiste des religions, fait un lien très intéressant entre le fait de refuser l'interprétation, le fait de refuser de valoriser qu'il y ait eu des variations dans l'interprétation au cours des siècles, entre ce refus d'une part, et d'autre part la violence dont peuvent être porteuses des religions. Tous les monothéismes, tous, hein, je parle du judaïsme, du christianisme et de l'islam, tous les monothéismes comportent dans leurs textes des passages violents. Or, les traditions interprétatives ont métaphorisé ces textes au fil des siècles. Elles ont traité de façon symbolique la violence dont ils parlent. Ces passages guerriers ont été lus comme une invitation à l'effort moral. Je pense, notamment dans la Bible, aux psaumes, qui souhaitent souvent l'anéantissement de l'ennemi. Je pense dans l'islam à la différence entre le grand djihad et le petit djihad. L'un est un effort moral, l'autre est un effort guerrier. En faisant sauter les traditions d'interprétation, le fondamentalisme, qui prétend renouer avec une lecture littérale des textes sacrés, réactive en vérité, la violence qui est présente dans ces passages. Donc, plus de proximité avec Dieu dans l'immédiat, plus de violence. « Le fondamentalisme, je l'ai dit, entretient un rapport problématique au passé. Voyons à présent ce qu'il en est de l'intégrisme, que l'on tend souvent à confondre avec le fondamentalisme, mais qui en réalité gagne à être distingué. En gros, l'intégrisme, si je devais le définir en une phrase, je dirais que c'est l'idée qu'il n'y a pas d'extériorité du religieux, que tout est religieux et qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais vous allez voir, il faut très bien définir ce que j'entends par là. L'intégrisme est lié à la façon dont un croyant ou une communauté refuse les différences en son sein ou chez les autres. Je dirais que l'intégrisme exige une conformité totale et, c'est important, exclusive à l'endroit d'un idéal religieux, récusant toute variation, toute différence ou tout aménagement. Car une différence, une variation ou un aménagement serait vu comme une perversion. Prenons l'intégrisme sur le plan individuel. Cela signifie que le croyant doit exclusivement penser et agir en croyant. Il ne peut penser ou agir en dehors de cette identité, par exemple en qualité de père, de comptable ou de citoyen. À ces identités, il devrait immédiatement accoler sa spécificité religieuse sous peine d'être un mécréant. Il devrait toujours être un père religieux, un comptable religieux, un citoyen religieux. On retrouve ici le concept du surmusulman qu'a proposé le psychanalyste Fethi Ben Slama. Mais on pourrait aussi parler du surchrétien ou du surbouddhiste, et je suis sûr qu'il y a des surathées. Sans jeu de mots. Dans tous ces cas, le croyant, ou l'athée, met constamment en scène son identité religieuse et simultanément appréhende toute expérience profane comme une potentielle profanation. Le profane, c'est la profanation. C'est ça que dit l'intégriste. L'intégrisme possède aussi un volet communautaire. Il s'exerce en premier lieu à l'intérieur de la communauté par la chasse aux timides et aux mécréants. C'est le refus que certains parmi nous ne fassent pas comme nous, en s'en tenant à une version maximaliste de la croyance ou de l'engagement religieux. On trouve l'idée d'une dégradation et d'une nécessaire purification. Elle vise ici non le passé d'une tradition, mais la diversité du groupe social. Et je fais une petite parenthèse, mais les purges staliniennes, ça ressemblait à peu près à ça aussi. Ce volet communautaire s'exerce aussi vers l'extérieur de la communauté. C'est ce qu'on appelle le communautarisme. C'est-à-dire le refus de composer avec les différentes communautés qui participent à la société. La logique est toujours identique. Un compromis à l'égard de tout idéal religieux est vu comme une compromission. Alors entendez-moi bien, qu'il y ait des éléments qui soient des intouchables de la foi, c'est compréhensible. Moi-même, j'appartiens à une tradition, je dis que j'étais protestant, mais en réalité, pour être plus spécifique, je suis mennonite, ce qui fait que beaucoup d'entre nous ont été des objecteurs de conscience, et j'en fais partie. Donc à certains égards, un idéal religieux peut conduire à mettre en suspens ou à critiquer des éléments tenus par le sens commun de la société ou par l'État. Il s'agit toujours de voir comment, bien évidemment. Mais il ne s'agit pas de tout idéal religieux, mais de certaines valeurs religieuses, ce qui fait une différence. Ce refus du pluralisme propre à l'intégrisme peut prendre deux visages. Il peut être quiétiste, c'est-à-dire qu'il se traduit par un retrait de la société. La communauté religieuse sort de la société pour ne pas être contaminée. Ça a été une tentation notamment des églises évangéliques pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Mais ce refus du pluralisme peut aussi se muer en une velléité expansionniste qui vise à plier la culture ou même l'ordre politique à la loi de Dieu. Et dans ce dernier cas, on voisine avec une tentation qui est la théocratie. Ici encore, la culture peut constituer une instance critique face à la tentation intégriste. Parce que la culture, c'est d'abord la reconnaissance d'une pluralité de manières de faire au sein de la communauté religieuse, en posant que certaines questions, ça qui est intéressant, certaines questions ne peuvent pas recevoir de réponse religieuse. Si vous cherchez dans votre Bible ce qu'il en est du génie génétique, bonne chance. C'est ensuite et surtout la reconnaissance, et pas seulement la tolérance, la reconnaissance de la diversité des communautés qui composent la société. Cette reconnaissance, accepter avec bienveillance que d'autres peuvent avoir des avis qui sont différents du mien et que ça ne constitue pas forcément une menace. Cette reconnaissance est nécessaire au fonctionnement pluraliste de la société. Alors j'ai tenté de montrer comment la culture propre à un groupe peut fonctionner comme une instance critique. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que les responsables religieux, que les communautés religieuses prennent conscience qu'ils ont déjà en main des appuis pour contrer l'intégrisme ou le fondamentalisme. Cependant, la culture peut aussi favoriser un repli sur soi du groupe, en particulier lorsque des éléments culturels sont sacralisés. Le groupe, je l'ai dit tout à l'heure, prétend que ces éléments ont été donnés par Dieu et que de ce fait, il est impossible de les critiquer. Cette dérive constitue une façon de négocier la tension que porte toute culture, c'est-à-dire le fait qu'elle comporte à la fois des éléments qui sont relatifs aux mœurs, qui sont contingents, et des éléments qui sont relatifs à la morale, qui sont universels. Mais la question, c'est comment faire le tri? Qu'est-ce qui, dans une tradition, est vraiment important? Et qu'est-ce qui, dans une tradition, peut concerner d'autres personnes en dehors de la tradition? Sacraliser la culture, ça revient à refuser de faire le tri entre ce qui est contingent et ce qui est universel. La tentation est réelle d'identifier complètement la culture avec le sacré. Le communautarisme de certaines communautés religieuses va sacraliser certaines formes culturelles et refuser de les soumettre à une critique. Mais il y a une autre tension. C'est la tension entre le local et le global. La culture locale d'un groupe se trouve ainsi en tension avec le discours religieux qui circule de façon globalisée. Comprise dans son juste rapport à l'histoire et à la tradition, cette culture locale peut jouer son rôle critique face à la circulation des discours globalisés. C'est pas pour rien que j'ai une position assez étrange, finalement, qui est celle qui consiste à dire qu'il faut financer la formation d'imam en Suisse. Il faut financer cette formation, il faut leur enseigner non seulement nos institutions, mais aussi l'application des sciences historiques et sociales à la lecture de leur tradition. Pourquoi ? Parce que ce sont nos premiers alliés sur la lutte contre la circulation d'énoncés transnationaux qui sont problématiques. Ils sont les premiers, et sont ce qu'on appellerait des gatekeepers, des gardiens de la porte, qui peuvent, dans leur communauté, déjà faire un travail de veille. On comprend alors l'importance qu'il peut y avoir pour les groupes locaux à conserver des caractéristiques culturelles fortes, plutôt que de se fondre trop rapidement dans une identité religieuse globalisée, qui serait celle du plus petit dénominateur commun. Car chaque fois que l'on relativise à bon compte la culture locale, on prête le flanc au fondamentalisme et à l'intégrisme. À nouveau, le problème ne tient pas dans le fait de tenter de participer à une communauté plus large qui dépasse les frontières d'un pays. Il provient de la façon dont procède le groupe. Cet universel, que vaut-il s'il est atteint sans réflexion, sans débat, sans prendre en compte l'épaisseur de l'histoire et de la tradition spécifique à un groupe, sans égard pour sa diversité interne, sans égard pour la diversité de la société? Que vaut cet universel ? Jusqu'à présent, j'ai tenté de réfléchir à la façon dont la diversité est présente à l'intérieur d'une même culture. Tout groupe est potentiellement affronté à la diversité parce qu'elle surgit à l'intérieur même. Si vous avez des enfants, vous allez comprendre de quoi je parle. La diversité surgit avec le passage des générations. La philosophe Hannah Arendt écrit que la cité grecque antique se donnait pour première loi, sa première loi, c'était son mur d'enceinte, fortification. On est ici sur les remparts, en fait, hein, de la vieille ville. Et vous voyez bien que le passage du temps a obligé Genève à abattre ses remparts et à construire la nouvelle partie de la ville. Ce mur qui enserrait la ville, bouge avec l'arrivée des nouvelles générations qui déplacent les bornes de la cité. Les premiers migrants, ce sont nos enfants. Et cette arrivée interroge et met à l'épreuve le modèle de la transmission. Cette mise à l'épreuve frappe aujourd'hui notre société, marquée par le christianisme dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a de pire. Car l'Europe a fait la difficile expérience d'une diversité qui n'était plus seulement intérieure au groupe, les générations suivantes, mais qui lui était aussi extérieure, les autres groupes. En se divisant lors de la réforme, la religion chrétienne a donné naissance à des factions rivales. Ces factions se sont affrontées. Elles prenaient chacune leur vision politico-religieuse. Genève en est un exemple. Pendant plus de 1000 ans, le christianisme avait assuré tant bien que mal la cohésion culturelle, politique, morale de l'Europe. Avec les guerres de religion, le christianisme est devenu un facteur de division. Ce qui a poussé nos sociétés à se donner un autre fondement que le christianisme pour penser le vivre ensemble de façon pacifiée. C'est pourquoi, et c'est une bonne chose, la religion ne se trouve plus au fondement de notre communauté politique. Notre société n'est plus légitimée par une transcendance religieuse. Le rapport entre politique et religion a été découplé. Ce découplage s'est étendu au rapport aussi entre morale et religion. Notre société a donc séparé la religion du politique et de la morale. Alors, certaines religions n'ont pas encore pris la mesure de ce changement-là. Toutefois, les valeurs judéo-chrétiennes, et vous mettrez des guillemets à cette expression, parce qu'à mon avis, elle est au mieux problématique. Les valeurs judéo-chrétiennes, je trouve toujours très bizarre, en fait, que ce concept apparaisse dans les années 50, de manière si marquée, juste après la Shoah. Il faut une sacrée amnésie pour parler des valeurs judéo-chrétiennes juste après la Shoah. Donc ces valeurs tendent paradoxalement à redevenir un enjeu politique que des partis identitaires brandissent comme un épouvantail censé éloigner un islam figuré sous des traits monolithiques et menaçants. Ces discours identitaires mettent à mal le pluralisme, soucieux de ménager une place digne de ce nom aux citoyens de confession ou de culture musulmane, ainsi qu'à leur communauté respective. Bien évidemment, on ne va pas accueillir n'importe quel islam, et je suis en train de vous donner des règles critiques pour le fonctionnement démocratique de n'importe quelle forme de religion, y compris l'islam dans nos sociétés. Donc oui, il faut soumettre l'islam, comme n'importe quelle religion, à la critique. Et ce n'est pas l'islamophobie. Dès lors, comment penser le fondement de la société sans justification religieuse? C'est une vraie question. Notre société, dirait Claude Lefort, est organisée autour d'un centre vide. Un centre vide. C'est un peu comme le moyau d'une roue, en fait. Cette affirmation, qui me paraît intéressante, signale que le bien commun n'est pas défini à l'avance, et encore moins par une conception religieuse spécifique. Aujourd'hui, ce n'est pas le christianisme, dans sa version triomphante du XIXe siècle, qui définit le bien commun en Suisse. Et ce n'est pas le calvinisme, dans sa version intransigeante du XVIe, qui définit le bien commun à Genève. Car si la définition du bien commun était trop précise ou arrêtée, elle risquerait d'exclure des personnes et des communautés qui ne se reconnaissent pas dans cette façon de penser le bien. Il y a donc une tension entre un fondement solide, bien défini, que pourrait offrir la religion, et au contraire, un bien commun qui demeure ouvert et qui se veut peu défini, afin de permettre à différentes communautés de participer à la définition du bien. Oui, nous devons définir le bien, mais c'est un processus, ce n'est pas une révélation. Ce système politique, propre à nos démocraties, s'appelle le libéralisme. Je pense que c'est le bon endroit pour évoquer ce terme. Il a réussi à mettre un terme aux guerres de religion en conduisant les différentes communautés à reconnaître que même si elles ne sont pas d'accord sur le sens ultime de l'existence, elles peuvent vivre ensemble de façon pacifiée. Par ailleurs, ces communautés partagent, malgré leurs différences, assez d'éléments moraux en commun sans qu'elles aient à s'accorder sur les questions ultimes de l'existence. Un philosophe politique, John Rawls, a réfléchi à l'une des techniques, à des processus, qui permettraient à des groupes divers de s'accorder autour d'une définition partagée du bien commun, malgré leurs différences. Ce dispositif s'appelle le consensus par recoupement. Le consensus par recoupement. En voici la définition. On s'accorde sur une valeur commune, par exemple la solidarité, même si la justification idéologique que lui donne chacun ou chaque groupe diffère. Autrement dit, il est possible d'argumenter sur la solidarité en étant juif, bouddhiste ou athée. L'important, c'est qu'on arrive à la même valeur, c'est pas le chemin par lequel on y arrive. Un autre philosophe, fort intéressant, Pierre Manon, signale que les sociétés occidentales rencontrent un problème majeur pour penser le vivre ensemble aujourd'hui. C'est un peu une critique du libéralisme. Ces sociétés ont progressivement délaissé leur tradition collective, à commencer par le christianisme, pour se focaliser sur la défense des droits individuels. Donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont abandonné une régulation collective, qui n'allait pas sans poser de problème, pour une régulation centrée uniquement sur les individus. Alors moi, je suis sociologue, quand je vois ça, je saute au plafond. Parce que je suis désolé, et les sociétés, ce n'est pas simplement un paquet d'individus. Ce sont des groupes sociaux, ce sont des communautés, et elles ont une densité qui leur est propre et qui dépasse les choix individuels. Hier, en Occident, la religion fournissait un bien commun tout près, mais déjà arrêté. Aujourd'hui, les religions ne fournissent plus le bien commun propre à notre société. Ce bien demeure ouvert. Nous avons à le trouver ensemble au travers du dialogue et du débat. Toutefois, ce processus collectif permettant de s'accorder sur le bien commun, et c'est ça le drame de notre société, ce processus d'une quête du bien commun a été remplacé par une fixation sur des droits individuels et abstraits. Aujourd'hui, tout le monde revendique ses droits et personne ne veut réfléchir au bien commun. C'est ça que nous dit Pierre Manon. Et c'est parfaitement pertinent comme critique à mon sens. Or, en réaction, on trouve des fondamentalismes et des intégrismes qui rêvent d'un retour en arrière. Ils prétendent que la solution au problème du vivre ensemble est à trouver dans un bien commun fixé de toute éternité par Dieu. Cependant, il est possible d'explorer le bien commun sans verser ni dans un individualisme forcené, ni au contraire dans un fondamentalisme réactionnaire. Pour cela, il est nécessaire que s'établisse un échange entre des conceptions locales du bien, notamment propres à des groupes religieux ou profanes. Ce débat public permet de faire le tri, et c'est ça qui est intéressant. Le tri entre des éléments qui relèvent des mœurs qui sont propres à un groupe et des normes morales qui concernent potentiellement l'ensemble de la société. Cette opération critique est exigeante. Elle nécessite des lieux d'échange et de confrontation dans lesquels les acteurs sont d'accord de discuter pour penser le vivre ensemble, malgré leurs différences et leurs désaccords. Et la démocratie, c'est ça. C'est que nous sommes d'accord d'être en désaccord et d'en débattre. Il est donc nécessaire, à mon sens, de constituer des lieux qui soient propices pour mener ces échanges. Que faire de la tradition chrétienne de l'Occident ? Elle est là, elle ne va pas partir. Comment l'articuler avec cette nouvelle réflexion sur le bien commun ? Il ne s'agit pas d'invisibiliser la religion dans notre société, mais de l'articuler à un processus démocratique d'élucidation du bien. Donc des lieux propices pour mener ces échanges, des lieux qui se voudraient attentifs aux cultures propres, à la fois à la majorité et aux minorités, à chacune des traditions représentées. Ces cultures denses disent en effet l'histoire de chacun des groupes présents, mais aussi son expérience contemporaine et ses aspirations pour demain. Cependant, ce dialogue ne peut faire l'économie de la critique des traditions, de toutes les traditions, y compris de la tradition majoritaire. Et au terme de mon propos, j'aimerais proposer 5 strates qui permettraient d'activer ce potentiel critique qu'il est impératif d'appliquer aux religions. J'ai parlé durant mon exposé de la dimension culturelle. J'aimerais maintenant mentionner 4 autres strates qui me paraissent importantes et qui pourraient donner lieu chacune d'elles à une conférence, je pense. 5 strates qui permettent d'activer le potentiel critique qu'il est impératif d'appliquer aux religions afin qu'elles deviennent des ressources fécondes pour penser le vivre ensemble dans notre société. C'est d'abord, et j'en ai parlé tout au long de mon exposé, les ressources qui sont déjà présentes dans un groupe religieux, notamment sa culture, en tension entre histoire, tradition et diversité interne. Ça, c'est la première strate. Elle est déjà disponible dans les groupes religieux. Il faut simplement l'activer. C'est ensuite, seconde strate, le regard externe qu'offrent les sciences historiques et sociales pour comprendre le fait religieux. Et de façon plus large, l'apport de toutes les sciences. Ensuite, les 3 strates restantes relèvent d'un triple dialogue critique qui doit s'établir avec, d'une part, les autres traditions religieuses, d'où l'impératif de l'interreligieux. En 4e lieu, l'état de droit et ses institutions. Il faut une conformité au droit. Et finalement, les autres acteurs de la société civile. Participer au débat de société. 5 strates, la culture interne, le regard externe que proposent les sciences, le dialogue interreligieux, le rapport avec l'État et ses institutions, et le rapport avec les autres acteurs de la société civile. Une certaine conception du modèle libéral a malheureusement avancé que pour participer au débat de société, le citoyen ou la citoyenne doivent entrer sans qualité dans l'espace public, libre de toute attache communautaire. En gros, l'espace public ne serait que le lieu des citoyens et non pas celui de leur communauté. Au contraire, je pense, pour autant que nous sommes disposés à composer avec autrui, ces attaches et ces convictions denses que nous apportons avec nous, ces biens auxquels nous tenons et qui nous tiennent, sont des ressources essentielles pour nourrir le dialogue citoyen dans une société libérale et pluraliste. Cependant, cette présence publique de la foi et des religions implique de distinguer entre le régime du témoignage et celui de l'argumentation. Les acteurs religieux doivent être capables de traduire leurs arguments en faveur d'une loi ou d'une politique publique dans un langage qui n'est pas seulement celui de leur tradition religieuse. Un croyant peut donc témoigner publiquement de la façon dont il fonde une valeur sur la base de ses convictions religieuses, mais il doit accepter, dans une société libérale, que la justification d'une loi ou d'une politique repose exclusivement sur des arguments séculiers. Ce n'est qu'à cette condition, me semble-t-il, que des traditions particulières pourront participer au projet commun, propre à une société séculière, de viser un universel qui nous transcende. Je vous remercie.
Cet exposé qui non seulement est brillant, mais je crois extrêmement stimulant intellectuellement. Je crois qu'il a apporté beaucoup de contributions en termes de précision des termes, ça c'est sûr, en termes de relations avec la culture, et surtout il se conclut avec, au fond, presque un programme politique, je dirais. En tout cas, un appel extrêmement précis à plusieurs pistes qui me paraissent intéressantes. Mais maintenant, nous avons le temps et c'est le moment de poser des questions, donc vous avez la parole. Oui, en voilà déjà une.
Vous pouvez vous présenter.
Oui, je suis Ming Qin, je suis non-bouddhiste et je suis d'accord avec une grande partie de ce que vous avez dit. Je vous remercie, c'était très enrichissant. Mais je concentrerai sur les critiques que vous avez même invitées. Le premier, vous avez commencé en rejetant l'idée que religion est en train de, entre guillemets, disparaître. Et je crois que cette thèse est largement soutenue par les faits aujourd'hui. Et vous avez même vous-même cité tous les exemples de contraires dans le tiers-monde. Par exemple, en Europe, que vous avez mis, ça semble être le cas. Moi, je propose le clé de Rosal, le test, antithèse, c'est que c'est une question de la richesse créée par la vie moderne qui est en train de répandre vers l'extérieur de l'Europe, vers le tiers-monde, et nous avons la même tendance dans le tiers-monde qu'aujourd'hui. Mais plus important, comme beaucoup des personnes qui parlent de religion, vous avez la tendance de utiliser très régulièrement la phrase « toutes les religions ». Et en tant que bouddhiste, je ne peux pas m'empêcher de regarder le nombre des fois que ça n'inclut pas au bouddhisme. Vous n'avez pas dit ça, mais j'ai régulièrement entendu les conférenciers dire toutes les religions ont une histoire de la création du monde, pas le bouddhisme. Et vous avez dit toutes les religions ont un fundamentalisme. Et depuis, j'ai cherché dans ma tête pour un fundamentalisme bouddhiste et je ne trouve pas, excusez-moi, et ce n'est pas les seuls exemples, mais pour prendre pas trop de temps des autres, je laisse à ça.
Merci pour ce complément d'information qui en même temps.
Merci beaucoup.
Je ne sais pas si vous voulez réagir, on va peut-être poser d'autres questions d'abord. Là, je vois. Voilà.
Merci beaucoup pour la conférence. Il y a une question qui m'est venue. Lorsque vous avez parlé de la transmission et de la régulation exercée lors de la transmission, et notamment la transmission qui est régulée lorsqu'elle est donnée à des experts. Varier des experts. La question c'était, est-ce que sur le plan sociologique, tu pourrais prédire ce qui se passe, si la régulation de la tradition donnée à des experts est passée seulement non à des experts, mais à des personnes dont la légitimité ne proviendrait que de leur fonction et non pas de leur expertise.
C'est un très très bon point. Hein. C'est un point qui ne concerne pas seulement les religions, mais qui concerne en fait toute forme de savoir spécialisé. Qu'advient-il à partir du moment où des gens occupent des fonctions qui sont censées impliquer des formes de compétences ou de savoir, qu'ils les occupent de façon incompétente? Je pense que c'est le drame de la plupart de nous dans nos professions. C'est que nous sommes placés en compagnie de collègues ou pour nous-mêmes hein, être dans ces situations-là, c'est-à-dire nous avons dépassé le stade de compétence. Maintenant, ce qui peut survenir dans ce cadre-là, c'est un durcissement de type légal, de type ritualiste, C'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur des formes qui sont des formes extérieures, sans être capable d'évaluer, d'avoir un critère d'évaluation, de jugement, de pondération. Donc en gros, c'est comme si on confiait l'application du droit à des gens qui se contentent de lire le code pénal, mais qui n'ont pas le savoir de la jurisprudence d'un juge. C'est ça.
Bonsoir. Je vous remercie sincèrement pour votre conférence très riche, qui a incité beaucoup de réflexions. D'abord, je me présente, je m'appelle Khalil Sharawi, je suis maître de conférence à l'Université de l'Azhar en Égypte et l'Université de Montjuïc, et vous nous demandez ce midi. Je suis en cadre de postdoctorat à l'Université de Genève dans le dialogue interreligieux et interculturel. Vraiment, votre conférence m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de pistes à travailler aussi pour ma recherche postdoctorale. J'aimerais juste mettre mise au point et deux questions.
Bien sûr, je vous en prie.
En fait, je fais partie d'un groupe qui lutte contre le fanatisme, l'intégrisme, surtout chez le monde arabe musulman et surtout en Égypte. Et je passe le jour à mes étudiants, aux gens qui vraiment que vendent directement au texte, qui donnent des lectures littérales à la lettre superficielle de texte et détachent le texte dans le contexte historique, social, culturel et tout le reste. Et après, c'est prêt à porter. Et le texte coranique, texte fondateur, distinct comme la Bible, le texte fondateur de judaïsme, du christianisme, c'est un miroir de l'auteur. Ça reflète ce que le docteur va projeter dedans. Si un philosophe du texte coranique, il va faire sortir de la philosophie et de merveille. Et si un fanatique, un homme agressif de l'intérieur, ça va projeter, va forer, parce que le verbe, comme le Coran, appelle à la paix et gère aussi la violence. Et met-le dans le contexte, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a le grand jihad qui est la lutte contre l'âme maléfique dans l'homme, ce qui est moral.
Absolument.
C'est comment être bien dans la société, comment être bien. À avoir la paix intérieure et à la paix sociale aussi. Comment défendre le bien-être de l'humanité? Il y a des valeurs universelles partagées dans toutes les religions et toutes les cultures, comme par exemple la justice, la paix et le bien-être, et sauver l'âme humaine, quelle que soit. Il y a d'autres valeurs spéciales pour chaque groupe religieuse, et c'est là qu'on peut parler de la diversité. Et cette diversité, c'est très riche, parce que moi, musulman, comme le monde, chrétien ici, j'apprends beaucoup de choses sur la valeur chrétienne, sur le savoir-vivre, sur la compréhension, la lecture, comment regarder l'autre, comment vivre avec l'autre, qui est vraiment une accord de beaucoup de choses. Ça m'a mis moi-même en question, parce que c'était méconnu par moi. Alors, je préjugais des idées malheureusement reçues, mais en vivant avec, en partageant ces valeurs, en assistant à ces cérémonies religieuses, j'apprends beaucoup de choses sur moi-même et sur l'autre aussi. La question, vous avez tout à l'heure dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, la formation des imams. Malheureusement, ça passe très difficilement chez nous, parce que la plupart des imams sont formés en Arabie Saoudite, à cause de peut-être de là, prononcément. Alors, ils apprennent une doctrine wahhabite très radicale, très littérale, très superficielle, très tribale même, qui n'est pas du tout en harmonie avec la culture mondiale, avec le droit de l'homme. Alors ces imams malheureusement formés dans le pays, comme les deux de l'Arabie Saoudite, ils vont directement au texte. Dans le texte coranique, il y a à peu près 6350 versets. Dans 6350 versets, il y a 150 versets qui parlent des licites, illicites, faits, mais pas faits, ordres et recommandations. Et le reste, c'est des valeurs universelles. Elle parle de l'homme, elle parle de la femme, elle parle de cosmos, elle parle de macrocosme, de microcosme, elle parle de la vie, des valeurs, du bien-être de l'être humain, son salut sur terre et dans l'au-delà. Malheureusement, ces imams, mais seulement, elles apprennent ce sont 50 versets, elles viennent ici prêcher cette doctrine, malheureusement, wahhabite, qui après donne à une radicalisation pour la jeunesse musulmane. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire ce grave maladie qu'Abdouad Mader, que vous avez cité tout à l'heure, a appelé la maladie de l'islam, ce fanatisme et ce extrémisme. D'autres questions aussi, vous allez dire qu'il faut remettre l'islam en critique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'islam de la foi à respecter, comme chaque foi de monothéisme, et l'islam de la culture, de l'histoire, de l'écriture, de l'interprétation, de l'exégèse, de la monotique, tout ça, on doit le mettre en critique pour mieux comprendre. Parce que jusqu'à maintenant, le musulman, la plupart des fanatiques, vont directement lire le texte avec les yeux de mort des gens du 1er siècle, du 2e siècle. Ils n'ont pas du tout le même contexte que celui qu'on a actuellement. Alors, je transporte le texte, la Bible à la règle, à la lettre, dans un contexte tout à fait différent. Je suis tout à fait d'accord, je suis sûr qu'un des grands étudiants de l'islam, ou des penseurs comme Averroès, ou Avicenne, ou Farabi, ou d'autres, ou même Razali, s'il vit au 21e siècle, actuellement, il va changer complètement sa vision du texte, il va changer sa interprétation, il va le mettre en contexte culturel et humain. Merci sincèrement.
Je vous remercie pour votre intervention qui était très dense. Et je ne peux que consonner avec ce que vous dites. Je relève rapidement deux points qui me paraissent essentiels. Tout d'abord, le financement par l'Arabie Saoudite du wahhabisme. Avec l'islam, on a affaire à une organisation, c'est-à-dire la régulation de l'islam, en particulier sunnite, c'est différent pour l'islam chiite, est très faible dans le sens il n'y a pas de clergé constitué fort avec une structure pyramidale, ce qui du coup fragilise une religion comme celle-là, mais c'est le même cas en fait pour l'évangélisme dont je parle, le fragilise et tend à mettre les théologiens, les experts, les lettrés, de côté au profit de prédicateurs qui vont au raccourci, qui vont au cliché. Moi, j'ai pu l'observer de façon assez approfondie pour les évangéliques, et j'ai eu l'occasion de l'observer de manière un peu plus lointaine dans le cas de l'islam. Donc là, on a un problème de régulation, et si tout, en fait, que vous avez un monopole qui peut s'établir avec une source économique, hein, c'est-à-dire qu'on a ce problème avec l'Arabie Saoudite du côté musulman, on a un problème analogue avec l'évangélisme du côté américain. Et c'est des sources de financement qui sont tout à fait analogues, hein, c'est les pétrodollars. Pour les Américains, c'est assez évident. Et donc là, on a des tendances à la radicalisation, au fondamentalisme, qui fonctionnent dans du religieux globalisé qui a peu de régulation interne, parce qu'il n'a pas de clergé, une armature solide, ce qui implique une régulation très forte, à mon avis. La mesure, c'est une régulation très forte par les États au niveau national sur ce qui circule internationalement. Et donc, en fait, il faut appliquer une forme de régulation. Alors je sais que dans un contexte radical, libéral, c'est pas toujours bien entendu, mais comme on applique une forme de régulation économique, je pense qu'il faut une régulation des circulations et des acteurs religieux et des doctrines religieuses qui circulent internationalement. Voilà.
Merci.
Il y a
monsieur.
Roland Iquier, archéologue aérien du bassin Genevois, le Sun d'ailleurs. Je veux vous dire que il est indiqué que l'intégrisme et fondamentalisme religieux était la base de votre conférence. À Genève, quand donc les intégrismes et fondamentalismes religieux sont arrivés, j'en ai la preuve, c'est à Présilly. Pourquoi ? Parce que j'ai une zone sacrée avec un temple gaulois et six temples de divinités romaines qui l'entourent. Et à côté d'une voie. Et n'oublions pas qu'à cette époque, le temple exerçait trois activités. Il soignait les âmes, il soignait les corps, la médecine. Comme par hasard, il y a une source sacrée à cet endroit. Et il soignait les biens. Et nous avons trouvé des trésors enfouis sur toute la surface sacrée. C'est en 186 après Jésus-Christ que le site a été détruit. Dans l'opinion de Claude Mégevant, le président du directoire de la Salétienne, il devait s'agir de bandes chrétiennes. Vous savez que la vallée du Rhône a été chrétienne très tôt, et celle qui nous a fourni des hordes de guerriers qui sont venus piller notre région. Ceci vous donne un complément.
Je rebondis sur votre intervention pour une chose qui me paraît importante, que je n'ai pas eu l'occasion de dire pendant l'exposé, c'est que tant l'intégrisme que le fondamentalisme sont des produits de la modernité. C'est un rapport au religieux qui est moderne. Alors, moi, je fais actuellement une enquête sur les créationnistes. Je rigole toujours parce que je cite Origène, 2e siècle, et Augustin, 4e siècle, qui disent qu'il faut être vraiment sot. J'ai le texte, hein, je peux vous le montrer. Qu'il faut vraiment être sot pour penser qu'à Éden, il y avait un arbre sur lequel on pouvait manger des fruits. Donc, c'est un produit de la modernité qui est une tentative de sécuriser des communautés traditionnelles face à des grands changements économiques et idéologiques. Donc, c'est une tentative de conserver de la tradition hors critique. Voilà.
Oui, monsieur.
Oui, je m'appelle Michel Menot. Je suis un pasteur retraité, comme d'autres ici. Je vous pose des questions à propos des valeurs. Les valeurs comme la liberté, la vérité, la justice, est-ce que ça se rapporte à une spiritualité, donc à un caractère universel, ou est-ce que ça se rapporte à une tradition, à une culture, donc en rapport avec différents éléments de société? De cette question dépend la réponse à la religion. Est-ce que la religion fait partie de la spiritualité? Ou est-ce que la religion fait partie de la culture et de la tradition? Moi, j'ai plutôt l'impression que ça fait partie de la culture et de la tradition, et la spiritualité, c'est quelque chose qui m'apparaît plus universel, mais aussi plus personnel.
La question que vous posez est éminemment complexe, évidemment, parce qu'en fait, elle se situe à différents niveaux. Si vous parlez au niveau anthropologique, c'est-à-dire ce qui qualifie l'être humain, nous avons des formes d'aspiration, ça peut être des aspirations vers le beau, vers le vrai, vers le juste. Hein. Donc là, je cite Platon. Et vous voyez bien que l'aspiration pour la vérité n'est pas le propre du christianisme, qu'elle a été pensée avant dans le cadre de la pensée grecque notamment, mais que le christianisme, dans sa culture, a pensé un certain rapport à la vérité. Ce qui veut dire une chose assez importante, donc ça, ce serait le début de votre question, c'est que je crois que nous découvrons des valeurs universelles au travers d'un processus historique et contingent. C'est-à-dire que vous avez des cultures qui sont exposées à certaines valeurs, pour des raisons qui sont contingentes, et qui vont avoir tendance à les découvrir plus rapidement que d'autres cultures. Je dirais ça. Maintenant, est-ce que la religion pourrait disparaître dans nos sociétés? Oui. En Occident, moi je pense que la religion pourrait disparaître. Mais ça ne voudrait pas dire que ce qu'aujourd'hui nous plaçons sous les besoins religieux des personnes ne pourrait pas être pris en charge par d'autres sphères d'activité. Je pense en particulier au développement des magazines de philosophie, qui aujourd'hui répondent en large partie à des questions qui avant pouvaient trouver une réponse dans le cadre de la religion. C'est une autre régulation, elle est individuelle, ce qui pose des problèmes, je l'ai dit, elle n'est pas communautaire. Et à mon avis, sitôt que vous avez des options fortes sur la vie personnelle qui ne sont pas, en fait, un moment ou l'autre, mises en débat au sein d'une communauté, ça peut poser des problèmes. C'est ce que je dirais. Voilà.
Madame, oui, je voulais vous poser, comme vous êtes un peu sémiologue, vous avez travaillé sur les textes et par une tradition plutôt qualitative, qu'est-ce que vous pensez de tous ces nouveaux travaux où on nous parle de grands récits, de héros avec des traditions psycho, machin chaud, je ne sais pas quoi. Mais ça, moi, ça me trouble beaucoup, ces livres sur les grands récits, évidemment liés au djihadisme, hein, c'est clair, et à ces nouveaux héros qui demandent des sacrifices, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette émergence de tous ces travaux qui me trouble beaucoup?
Alors, toute communauté, en fait, c'est ce qu'on voyait la semaine passée, toute communauté, d'une certaine manière, se donne des figures qui sont des figures d'identification. Si vous avez des figures d'identification, vous avez des figures de contestation également. D'accord. Donc vous avez des héros et des anti-héros. Je vais vous donner un exemple très très simple. J'ai des enfants qui sont des préadolescents. Comment est-ce qu'on évoque les enjeux de gestion de la sexualité avec mes enfants? En regardant des séries télévisées américaines. C'est extrêmement pratique. On regarde une série. Les parents et les enfants sont dans le salon, mais il y a une situation un petit peu scabreuse, et on fait un commentaire. Donc, ces ressources-là, ces récits, sont des appuis pour former des jugements moraux. Et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, nos jugements moraux sont calibrés par les films ou les séries ou les romans que nous lisons. C'est un premier élément. Donc, il y a quelque chose dans ces grands récits-là. Ensuite, il est vrai que si vous avez à la fois un récit qui est disponible et vous avez des groupes sociaux ou des acteurs sociaux qui s'y identifient et qui passent à l'acte, ça peut être des récits héroïques, hein. Je préférerais que des gens s'identifient à l'abbé Pierre à Oussama Ben Laden. Mais si vous avez des gens qui s'identifient, si vous avez des processus et des groupes qui produisent, en fait, reproduisent ce modèle-là, je pense que ça vaut la peine d'enquêter dessus. Maintenant, un récit est un récit. Tant qu'il n'est pas incarné, tant qu'il n'y a pas passage à l'acte, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Dans le cas du terrorisme djihadiste, on a eu malheureusement passage à l'acte. Voilà.
Et quels sont à votre avis les facteurs qui font qu'à un moment donné de leur histoire, dans une certaine communauté religieuse, certains membres se tournent vers le fondamentalisme, l'intégrisme et la violence? Quels sont ces facteurs?
Je pense que l'un des premiers facteurs, c'est déjà que les personnes qui se tournent vers une forme de violence, en tout cas une forme de radicalité intransigeante, la question qui se pose, c'est déjà quel est leur rapport à la communauté locale. Ça, c'est la première question. Ce ne sont pas généralement, en tout cas dans les enquêtes qui ont été faites, ce ne sont pas les gens qui sont bien insérés dans la mosquée locale ou dans l'église locale qui se tournent vers cela, ce sont plutôt des gens qui gravitent à la périphérie de ces cercles-là et qui appartiennent à des groupes de pères, de jeunes adolescents ou de jeunes adultes. Donc on a déjà un rapport qui est périphérique. On a par ailleurs une proposition de très fort engagement. Je pense que l'une des faiblesses des travaux en sociologie sur la question de la radicalisation, c'est que souvent les sociologues, nombre d'entre eux ne prennent pas au sérieux les contenus religieux et pensent que les variables socio-professionnelles sont suffisantes pour expliquer ce qu'il en est. Je pense que c'est important de tenir compte des variables socio-professionnelles, des variables géographiques également, mais c'est important de voir aussi quelles sont les propositions, là on retrouve la question des récits, madame, quelles sont les propositions qui sont faites à ces jeunes, quel est le type d'engagement, d'idéal qu'on leur propose. Moi-même, quand j'étais adolescent, j'ai eu une phase fondamentaliste, je suis passé par une église évangélique fondamentaliste, et je peux vous dire qu'il y a une réelle attractivité, qu'il y a une réelle proximité dans ces groupes de jeunes, et qu'on a vraiment l'impression de faire partie d'une élite. Et les contenus religieux, c'est pas du flan. En tout cas, quand j'avais 16 ans, c'était pas du flan pour moi, et je pouvais être assez intransigeant. Voilà. C'est sommaire, je suis désolé, mais...
Je m'appelle Henri Neufin, j'ai deux questions toutes simples. La première, je vous ai bien compris quand vous dites le libéralisme, c'est le lieu de dialogue. C'est bien ça?
Absolument.
La deuxième question, c'est, il y a une équation entre libéralisme et laïcité.
Oui. Vous avez parfaitement raison, mais je pense que nous sommes face à plusieurs traditions libérales. Nous sommes face à plusieurs traditions libérales. Je pense que nous avons des difficultés avec une certaine conception républicaine. Il peut y avoir un libéralisme de teinte républicaine qui, lui, en fait, détermine plus fortement le bien commun, et trop en amont, je pense. Mais on a aussi un autre problème, c'est que certains libéralismes sont tellement amorphes et s'occupent tellement des droits, mais pas des contenus, qu'ils sont impuissants face à des idéologies qui sont compactes. Et ça, c'est l'avertissement que nous adresse, je pense, Pierre Manon. Pierre Manon, la difficulté avec sa thèse, hein, qui est fascinante par ailleurs. Son idée, c'est en gros, qu'est-ce qui va nous sauver de l'arrivée de l'islam? C'est célébrer, retourner au catholicisme, hein, minimalement de façon culturelle. C'est sa thèse, hein, je ne caricature pas. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec son diagnostic, je ne suis pas d'accord avec sa solution. Pour moi, la solution, elle reste pleinement libérale, et c'est simplement... convoquer les acteurs à un débat exigeant, et il y a un point sur lequel je suis intransigeant, c'est sur le débat avec les sciences. Parce que dans la société, il y a un domaine qui est chargé de fixer ce qui est tenu pour vrai, même si c'est momentanément, et ça s'appelle les sciences. Et il nous faut des faits pour vivre en démocratie.
Oui,
alors on prend encore peut-être deux questions, puis après on va clore, parce que je crois que le débat pourrait se poursuivre encore longuement.
Ces jours, on vient d'assister à une rencontre à Rome entre le pape François et au représentant de Al-Azhar.
Cheikh Al-Azhar.
Voilà. Il citait Hans Küng, pas de paix entre les peuples. S'il n'y a pas de paix entre les religions. Hans Küng, théologien catholique alémanique, qui a passé sa carrière universitaire en Allemagne, où il était limogé par le pape Bénédicte, avec sa fondation EJOS, il a beaucoup travaillé sur l'interreligieux et sur la recherche de dénominateur commun à travers les différentes religions. Donc vous avez parlé de ses valeurs. Alors lui, il a travaillé là-dessus. À partir de là, j'aimerais remonter sur la question de la formation des imams. En Allemagne, il y a toute une série de chaires. Curieusement, en Suisse, cette question fait débat. Curieusement, les associations fêtières musulmanes partent en guerre, attaquent pendant jusqu'à menace de mort les imams qui appliquent la méthode historico-critique. Qui font le tri entre la contingence, etc. Qu'est-ce que vous avez mentionné? Alors, comment envisagez-vous la formation d'imams en Suisse, compte tenu de ces réactions de la base, où il y a un islamisme intransigeant, intégriste, qui se développe de façon fulgurante et en Suisse, et en France, et en Belgique?
Alors, je remercie.
Certains amis, vous ne mettez pas partout.
Voilà, je remercie pour votre question. Moi-même, je fais une enquête de terrain depuis des années maintenant avec l'UVAM, l'Union Vaudoise des Associations Musulmanes, et je peux vous assurer que son président et les cadres que j'ai rencontrés sont tout à fait ouverts à des formations, y compris du type historico-critique, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le président Pascal Gimperli est notamment un étudiant en sciences sociales. Donc il y aura un peu de difficulté, je pense que ce sera un peu schizophrène. Il est vrai, cependant. Il est vrai que, mais je pense, je n'en ai pas entendu parler en Suisse, il est vrai que dans d'autres pays, il y a eu des velléités de cet ordre-là face à des savants qui, effectivement, avaient des positions qui étaient perçues comme ultra-libérales. Mais là, en fait, on a un mécanisme assez pervers, je pense, de pression effectuée par des clercs qui sont à l'étranger, qui vont monter à l'extérieur du pays des procès pour des théologiens qui sont dans le pays. Donc là, j'ai un collègue à Aouez Seniger, qui est un politologue spécialiste de l'islam qui enseigne à Sciences Po à Lyon, qui m'a rapporté un cas de cet homme-là sur lequel il travaille. Donc, évidemment, ça pose la question de quelles sont les régulations nationales de la circulation de ces acteurs-là et de ces formes d'islam. Et je pense que l'État n'a pas à se mêler de contenu religieux directement, il n'a pas à se faire théologien, mais l'État doit se mêler de ce qui relève du droit, ça c'est évident, mais aussi de ce qui relève de la promotion d'une forme de réflexivité, à savoir les sciences. Et donc, c'est le domaine du vrai. L'État ne va pas me dire, moi, en tant que sociologue, ce que je dois écrire, mais l'État rend possible mon travail, en finançant mon travail. Donc c'est une question de service public, notamment par rapport aux universités. Et c'est une question, à mon avis, de régulation du droit. Ici, on est sur un volet qui est plutôt sécuritaire. Voilà.
Bien, je crois qu'il y a encore une question aussi.
Oui, certains sont une image, maître bouddhiste zen. Je voudrais d'abord dire que je ne pense pas que le bouddhisme ne soit pas en danger également de certains mouvements fondamentalistes. Je vais avoir plusieurs exemples. De toute façon, à mon avis, le fondamentalisme est un virus qui peut se propager à peu près dans toute spiritualité et toute religion. Mais il y a néanmoins une phrase que tu as prononcée qui m'a frappé et il est possible que je n'ai pas compris. Tu as dit que les fondamentalismes préconisaient un accès immédiat à la transcendance. Pourtant, en fait, tout homme de foi considère qu'il a d'une certaine façon un accès direct à la transcendance, qu'elle soit verticale ou horizontale. Est-ce que le fait de considérer avoir un accès direct à la transcendance peut donner lieu, de façon inconsciente en chacun de nous peut-être, la tension ou le désir de devenir fondamentaliste?
Évidemment, ma réponse est non. L'élément important, et je crois l'avoir souligné, l'élément important, le problème ce n'est pas l'immédiateté, mais c'est la façon dont elle est ensuite articulée avec des médiations. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas tiré de la religion, mais qui est tiré de la pratique d'un instrument. Parce qu'à certains égards, la religion, c'est un peu comme pratiquer un instrument, je pense. Ma fille fait du violon depuis plusieurs années. On lui apprend, elle a appris les rudiments de la technique, elle a appris à lire les notes, elle a appris à faire résonner son instrument. Et puis, très récemment, son professeur s'est mis à lui dire « Mais il faut que tu vives à l'intérieur de ton violon, il faut que ça sorte de tes tripes. » Qu'est-ce qu'il était en train de lui dire ? Il était en train de lui dire « La phase en fait, d'apprentissage qui est transmise par une tradition doit maintenant se traduire en une expérience immédiate. » Mais cette expérience immédiate a eu besoin de s'appuyer sur la transmission, sur la tradition. Et puis cette expérience immédiate, elle va faire bouger la tradition aussi. Elle va la déplacer, parce qu'elle va lui apporter quelque chose de nouveau. Donc le problème, ce n'est pas l'immédiateté, c'est prétendre que l'immédiateté n'est pas articulée avec une tradition. C'est ça, en fait, le fondamentalisme.
Bien, je crois qu'on pourra encore pendant... parler de tout ceci pendant quelques heures. J'aimerais maintenant clore ce débat en remerciant encore mille fois notre orateur. Je crois que vous avez fortement apprécié son intervention. Alors, j'aimerais au nom de l'Institut National Genevois, dont je ne suis pas encore membre, vous offrir, t'offrir ce livre. Oui, honte à moi, ça viendra, mais bien sûr. Offrir avec tous les remerciements et puis vous inciter vous aussi à venir acheter le livre que ton reine vienne, qui reprend, je pense, une partie quand même des thèses que tu nous as démontrées ce soir, au prix de 35 francs. Donc vous avez droit, y compris à la dédicace de l'auteur. Donc vous êtes les bienvenus pour venir acheter et encourager la production intellectuelle de Philippe Gonzalez. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci.